Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade.
Donc bonjour, nous sommes avec Pierre Dhomme, journaliste, qui va nous parler d'un sujet assez méconnu, une enquête historique sur des travailleurs indochinois en France entre 1939 et 1952, et plus particulièrement dans nos villages de Garrigues. Alors peut-être Pierre, est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et pourquoi tu as travaillé sur ce sujet-là ?
Alors d'abord, bonjour aux auditeurs. Donc je suis un journaliste, je travaille pour la presse écrite, j'ai longtemps travaillé pour le journal Libération, je travaille maintenant pour le mensuel Le Monde Diplomatique, pour lequel je mène des enquêtes, des grands reportages dans différents pays à l'étranger. En parallèle, j'ai commencé depuis une dizaine d'années à écrire des livres qui sont des enquêtes historiques sur des aspects complètement oubliés du passé colonial de la France. Je dis enquête historique parce que je me situe à mi-chemin ou à la frontière entre l'enquête journalistique proprement dite et l'essai historique.
D'accord.
Ma première enquête que j'ai démarrée il y a donc maintenant une dizaine d'années, c'est justement sur ce sujet-là, un épisode du passé colonial français qui a été complètement oublié, à savoir que en 1939, à la déclaration de la guerre, la France coloniale a considéré comme parfaitement légitime, hein, c'était l'esprit colonial de l'époque, d'aller recruter, de gré ou de force, 20 000 jeunes paysans vietnamiens au Vietnam. Donc, on les a arrachés de leur village, on les a mis dans des bateaux et on les a envoyés en France, avec, dans un premier temps, l'objectif de les faire travailler comme ouvriers dans les usines d'armement.
D'accord, c'était ça l'idée première.
La France était en guerre, les ouvriers français des usines d'armement, une partie d'entre eux était au front, donc il fallait les remplacer, puisque pendant la guerre, il faut faire tourner les usines d'armement, et donc on est allé recruter donc 20 000 jeunes hommes au Vietnam. Sur ces 20 000, on peut considérer que plus de 90% ont été recrutés de force.
D'accord.
Il y a eu un petit appel au volontariat, mais l'immense majorité a été recrutée de force. Donc ils étaient arrachés de leur village, arrachés de leur famille.
Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à te pencher sur ce sujet ?
Alors, c'est vraiment le hasard journalistique. C'est-à-dire que je n'ai aucun lien familial avec le Vietnam, ni d'ailleurs avec l'Algérie, c'est un autre gros sujet sur lequel j'ai travaillé après. Et donc, mais pour revenir là à ces travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale, il y a 10 ans, donc, j'étais le correspondant de Libération pour le Languedoc-Roussillon.
Oui.
Et un jour, Libé m'appelle et me dit « Écoute Pierre, il faut que tu ailles à Arles. » Donc c'est juste en dehors de ma zone, mais bon. « Il faut que tu ailles à Arles parce qu'il y a l'usine Lustucru à Arles qui est en train de fermer. Les ouvriers sont en grève, ils bloquent l'usine, etc. » C'était un conflit assez dur. Et donc, il s'agissait d'écrire un article là-dessus. Donc j'y vais. Je comprends que cette usine Lustucru, elle fait non seulement des pâtes, hein, des nouilles, mais elle conditionne aussi le riz de Camargue, la fameuse marque Taureau ailé, très connue en France. Et donc, je me dis, attends, si l'usine ferme, comment vont faire les producteurs de riz de Camargue pour emballer leur riz? Ça va leur poser des problèmes. Donc, pour un peu enrichir mon article, je me suis dit, je vais essayer d'aller rencontrer quelques producteurs de riz pour leur poser la question. Je prends ma voiture, je m'enfonce dans la Camargue, sur cette route de Arles qui mène à Salins-de-Giraud. Et là, il y a un petit hameau qui s'appelle Le Sambuc. Et je vois un petit écriteau, Musée du Riz. Bon, je suis un journaliste sérieux, je me dis, bon, là, allez, tant qu'à faire, je vais vraiment aller à fond dans mon enquête. Et je regarde ce petit musée qui a été fait par un riziculteur. Hein, c'est un truc... voilà, c'est pas un musée très officiel. Et là, je vois une photo noir et blanc. C'est celle que je reproduis ensuite sur la couverture de mon livre, où on voit deux paysans cassés en deux, les pieds dans l'eau, en train de repiquer du riz. On ne voit pas leur visage, mais tous les deux portent un chapeau conique qui fait que spontanément, on se dit, tiens, c'est des Asiatiques. Et le paysage, ça peut être un paysage du delta du Mékong au Vietnam. Bon. Mais il y a une légende, et cette légende, c'était écrit en 1942, des paysans vietnamiens sont venus planter du riz en Camargue.
D'accord.
Alors là, je vous parlais de ma curiosité journalistique, je me dis, attends, en 1942, l'Europe est en pleine guerre. Et il y aurait eu comme ça des paysans vietnamiens qui n'avaient pas un sou pour se payer le moindre billet de bateau pour l'Europe. Et qui se seraient levés un matin en se disant, tiens, je vais aller planter du riz en Europe. Bon, je me suis dit qu'il y avait un truc là derrière. Et j'ai commencé à gratter, à tirer un fil, etc. Et j'ai découvert donc la raison pour laquelle ces hommes s'étaient retrouvés là en Camargue en 1942. C'est que, en effet, donc comme je vous disais, en 1939, ces 20 000 hommes ont été recrutés pour les usines d'armement. Sauf que, dès juin 1940, la France perd la guerre contre l'Allemagne, et donc les usines d'armement, elles s'arrêtent. Et là, en fait, le gouvernement français va essayer d'en renvoyer certains chez eux, parce qu'ils sont plus utiles. Hein. Sauf que, très vite, la route maritime vers l'Extrême-Orient va être trop dangereuse, parce qu'il y a les bateaux anglais qui tirent sur les bateaux français, etc. Bon. Et donc, il va y avoir 15 000 Vietnamiens, qu'on appelle alors les travailleurs indochinois, dans le langage administratif. Donc, 15 000 travailleurs indochinois qui vont se retrouver bloqués en France pour toute la durée de la guerre, et même, comme on va le voir, un peu au-delà.
D'accord. Donc ça, on est en 42, c'est ça ?
Non, on est en 40.
En 40.
Juin 40, la France perd la guerre contre l'Allemagne. La partie nord de la France est occupée par l'armée allemande. Et les travailleurs indochinois vont être envoyés dans la partie sud de la France.
D'accord.
Sous autorité, donc, de Vichy. Et dans cette partie sud, ils vont être internés dans d'immenses camps d'internement dans donc toute la partie sud de la France.
D'accord.
Il va y avoir une dizaine de camps principaux à Marseille, à Sorgues près d'Avignon, à Agde dans l'Hérault. Nos auditeurs savent peut-être que Agde, l'histoire de Agde a été marquée par l'existence d'un camp d'internement de population civile extrêmement important pendant la Seconde Guerre mondiale. Un camp qui a été créé pour accueillir, entre guillemets, mais c'est vraiment entre guillemets parce que les types, on les a traités comme des chiens, c'était des conditions vraiment terribles, pour accueillir, entre guillemets, les républicains espagnols.
D'accord.
Qui fuyaient le fascisme en Espagne. Et donc, les républicains espagnols ont été les premiers internés du camp d'Agde. Il y en a eu jusqu'à 20 000, je pense, espagnols dans le camp d'Agde. Puis sont arrivés 5 000 travailleurs indochinois. Et ensuite, il y a eu d'autres internés dans le camp d'Agde, et notamment les Juifs de l'Hérault après les grandes rafles de l'été 42. Donc, une dizaine de camps, donc, comme j'ai dit, Marseille, Agde, Toulouse, Bordeaux, Bergerac, etc. Et voilà, le gouvernement de Vichy a créé un service à l'intérieur du ministère du Travail qui avait la gestion de ces hommes. Ce service s'est appelé le service de la main-d'œuvre indigène. Ce service devait loger et nourrir ces hommes. Alors ça n'a pas coûté très cher puisqu'ils étaient logés dans des baraques en bois, dormant sur des planches en bois, avec très peu d'habits et très peu de nourriture. Et ensuite, le gouvernement de Vichy s'est dit « Bon, on a ces hommes-là sous la main, autant en profiter. Et donc, on va les faire travailler. » Et c'est là où on va arriver à nos petits villages de la Garrigue héraultaise. Voilà. Autant les faire travailler. Et donc, ce service de la main-d'œuvre indigène va faire de la publicité auprès de tous les employeurs potentiels dans tous les domaines de l'économie française en disant « Écoutez, il y a des manques de main-d'œuvre dans plein d'endroits. Il y avait un certain nombre de Français qui étaient prisonniers en Allemagne, etc. Là, si vous voulez, on a une main-d'œuvre, on vous la loue. On vous la loue. Et donc, si vous avez besoin, vous adressez à nous et on fixe les conditions, etc. »
D'accord. Et donc là, les demandeurs, c'était...
Et donc, les demandeurs, ça pouvait être des grosses usines.
Ouais.
Alors, il y a eu des grosses usines de textiles dans le lieu, près de Lyon. Mmh. Ça pouvait être des grosses exploitations forestières.
D'accord.
Et là, ça a été le cas dans l'Hérault, puisque un certain nombre de ces hommes se sont retrouvés à être envoyés dans certaines forêts pour non seulement couper du bois, mais surtout pour le transformer en charbon, puisque vos auditeurs un peu âgés se souviennent certainement des fameux moteurs à gazogène. Les moteurs à gazogène, contrairement à ce que leur nom indique, ne fonctionnaient pas au gaz directement, mais fonctionnaient au charbon. Et donc, il y avait des véritables petites chaudières installées derrière la cabine du camion qu'on remplissait de charbon, un peu comme les vieilles locomotives, et ça permettait de remplacer le pétrole qui était en pénurie. Et donc, ça pouvait être ça. Ça pouvait être des collectivités locales, des syndicats mixtes, etc., dans l'agriculture. Et ça pouvait être de simples agriculteurs qui avaient besoin d'une dizaine de bonhommes.
Nhà. Vì tình yêu thì có đâu sao.
Alors on a quelques exemples peut-être de villages d'égarigues justement où on a des traces de cette activité de travailleurs indochinois durant cette période qui est une dizaine d'années, c'est ça?
Alors non, c'est pas une dizaine d'années, ça, la période précisément, ça a commencé on va dire en 1941, les premiers arrivés dans le camp de Agde. Les premiers travailleurs indochinois sont arrivés en novembre 40, et ensuite, le temps que des employeurs potentiels disent « moi, j'ai besoin de 10 bonhommes, moi, j'ai besoin de 50, moi, j'en aurais bien 200 », ça a pris quelques mois. Et donc, on va dire, à partir de début 41, les villageois, les habitants de certains villages des Garrigues ont vu arriver ces hommes au visage très bizarre, hein, puisqu'il faut bien se dire qu'en 1941, en France, quasiment personne n'avait jamais vu un Vietnamien de sa vie, ni même, pour ainsi dire, un Asiatique. Et d'ailleurs, quand ces hommes sont arrivés dans les villages, ne parlant pas... Enfin, eux parlaient vietnamien, ils ne parlaient pas le français, les villageois ne parlaient pas vietnamien, on peut imaginer. Et en fait, les Vietnamiens se sont mis souvent à les appeler soit les Annamites, soit les Chinois.
D'accord.
Avec l'idée que toute personne avec des yeux bridés serait un Chinois. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, là, je donne souvent des conférences comme ça dans certains villages, et les vieilles personnes des villages se souviennent en effet de cette présence des Chinois. Et d'accord, ils continuent à dire « Ah oui, les Chinois, quand j'étais petit, etc. » Et donc, des exemples. Alors, tout près de Montpellier, il y a le village de Latte,
oui,
qui a accueilli une compagnie entière de travailleurs indochinois. C'est 250 hommes.
D'accord. Hein,
c'est quand même gros. Et là, ça a été c'était le syndicat agricole de Latte, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc, c'était d'immenses terres qu'il fallait cultiver. Et là, donc les Vietnamiens étaient logés dans des mauvaises conditions, dans des baraquements. Et tous les matins, ils allaient au travail. Des autres villages, il y en a plusieurs, hein. Il y a le village d'Anyan.
D'Anyan, oui, tout à fait.
Anyan, ça c'est aussi pour de l'agriculture.
Oui.
Y a eu aussi plusieurs dizaines de travailleurs indochinois qui étaient là. Et les gens du village ont plutôt un espèce de mauvais souvenir de ces Vietnamiens comme étant des chapardeurs, des voleurs de poules. Ce qui n'était d'ailleurs pas entièrement faux, puisque ces mecs crevaient littéralement de faim. Puisque les employeurs agnanais, censés enfin qui les faisait travailler, était aussi censé les loger et les nourrir. Mais comme il les logeait très mal et il les nourrissait très mal, eh ben, les types crevaient de faim. Et eh ben, quand on crève de faim, on va piquer un peu des pommes de terre dans le champ d'à côté. En plus, la spécificité des Vietnamiens, c'est qu'ils mangent de tout. Ils mangent littéralement de tout dans le végétal, donc toutes les herbes possibles et imaginables, et le tout dans le monde animal. Et donc, les Anyanais voyaient disparaître aussi leurs chats et leurs chiens domestiques. Donc là, c'est vrai que ça les a tristés, parce qu'en France, on n'a
pas trop cette habitude.
On n'a pas trop cette habitude et on a beaucoup d'affection pour son chien. Mmh. Et donc, quand on se rend compte qu'il a fini dans la casserole des Chinois, bon, on n'est pas très content. Et c'est comme ça que dans les archives départementales de l'Hérault, on retrouve des lettres, des plaintes des villageois d'Anyan qui n'en peuvent plus de ces Chinois qui...
D'accord, c'est comme ça qu'on retrouve des traces.
Absolument, absolument. Donc sinon, il y en a eu...
On parlait Saint-André-de-Buège, dans la vallée de la Buège.
Oui, alors dans la vallée de la Buège, en effet, et là les gens se souviennent bien, je suis allé donner une conférence il y a quelques temps, ils étaient là vraiment pour le charbon, d'accord. Pour le charbon de bois.
Qui est une activité assez ancienne justement dans les Garrigues, la production de charbon de bois, on le voit avec le festival qui se passe à Sainte-Croix de Quintillargues sur les charbonnières, et on voit que cette activité du charbonnage à toutes les époques été pratiquée par les mêmes personnes. On voit notamment, il y a eu du charbonnage en fin 19e, début 20e, fait plutôt par des Italiens qui venaient. Et donc là, on a cette anecdote justement sur la vallée de la Buège, sur plutôt des travailleurs indochinois, sur cette période-là.
Et alors, en effet, j'ai pas étudié les Italiens qui ont travaillé là, mais on peut imaginer, parce que c'est une espèce de vieille tradition française, dans des travaux comme ça, très manuels, qui ne rapportent pas énormément d'argent aux propriétaires des terres, etc., eh ben, l'idée est de trouver une main-d'œuvre la meilleure marché possible et qui travaille longtemps sans contestation. Les travailleurs indochinois, ça a été le top du top pour les propriétaires terriens, puisque, et là c'est un point très très important qu'il faut souligner, pendant toutes ces années, quand donc un employeur avait besoin de main d'œuvre, je vous ai dit, il s'adressait à Vichy, au bureau de la main d'œuvre indigène. Un contrat était passé entre l'employeur et l'État français. Et dans ce contrat, il était noté le prix de la location de cette main-d'œuvre, donc à la journée, ce que l'employeur s'engageait à verser par homme et par jour. Et là, j'ai retrouvé dans les archives un grand nombre de ces contrats. Bon, et en gros, l'employeur payait... de mémoire une vingtaine de francs de l'époque par jour et par homme. D'accord ? Là, 20 francs en 1942, ça ne dit rien aux auditeurs, évidemment. Bon. Et donc, il a fallu que je compare par rapport au salaire que percevaient les ouvriers agricoles français à la même époque. Et en gros, un ouvrier français, à la même époque, il percevait, donc pour ce même travail, il percevait 100 francs par jour. D'accord ? Alors que donc, l'ouvrier agricole, enfin, l'employeur, ne versait que 20 francs par jour. Donc, pour l'employeur, c'était extrêmement rentable, cette main-d'œuvre. C'était vraiment bon marché. Mais le pire n'est pas encore là, c'est que pendant toutes ces années, l'État français a reçu cet argent des employeurs. Mais pendant toutes ces années, l'État français n'a jamais reversé le moindre centime aux travailleurs indochinois, qui donc ont été recrutés de force dans leur village, comme je vous ai dit, mais en plus, on les a fait travailler pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans sur le sol français, sans leur verser le moindre salaire. Comme explique l'historien Gilles Manseron dans la préface de mon livre, Gilles Manseron est un des grands spécialistes de l'histoire coloniale française. L'histoire des travailleurs indochinois en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un exemple unique de translation, en quelque sorte, de la situation coloniale aux colonies sur le sol français.
D'accord.
C'est-à-dire que dans les colonies, en Indochine ou en Algérie, c'était monnaie courante de faire travailler des gens des colonies sans les payer, en les nourrissant très mal, en les logeant très mal, etc. C'était, entre guillemets, normal. Une triste normalité, mais à l'époque, c'était considéré comme normal. Mais en fait, ça n'arrivait jamais de faire venir comme ça massivement et de force un groupe important de personnes colonisées sur le sol français. Et donc là, on a un cas unique de pratique finalement coloniale, d'exploitation coloniale sur le sol métropolitain.
Thank you.
sinon, pour reprendre quelques exemples de villages des Garrigues, il y en a un autre tout à côté de
Clermont-l'Hérault.
Clermont-l'Hérault, voilà, où se trouvait une petite usine de transformation du genêt en fibre textile. Et donc, les gens de ce village se souviennent très bien de... Je pense qu'il y avait au moins une cinquantaine de Vietnamiens qui ont vécu là pendant 2-3 ans et dont le boulot était de ramasser du genêt et de l'emmener à l'usine.
L'Odève était une grande place du textile pendant de longues périodes.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, vous citez l'Odève. L'Odève a abrité un camp de travailleurs indochinois très important. Dans des hangars de la SNCF. Il existait une gare de train à l'Odève, elle n'existe plus. Je crois qu'il y a un supermarché, c'est à l'entrée de l'Odève à droite. Se trouvait là le camp des travailleurs indochinois, un camp très important, et des travailleurs indochinois ont d'ailleurs travaillé à une des usines de textile de l'Odève, qui était très connue à l'époque, c'était les établissements Tesserinck et Arlachol.
D'accord. Et comment, du coup, ça a pris fin, finalement, cette période de travail de ces Indochinois? Quelles ont été les raisons, les dynamiques qui ont fait que ce travail-là s'est arrêté?
Eh bien, donc, si vous voulez, comme je vous ai dit, ces hommes-là, ils étaient bloqués en France parce que la route maritime n'était pas praticable à cause de la guerre. Quand la Seconde Guerre mondiale, a pris fin, en 1944-1945, à nouveau, les bateaux ont pu circuler entre la France, entre Marseille et l'Indochine. Et là, à ce moment-là, le gouvernement français, donc le nouveau gouvernement, celui de Gaulle, aurait dû enfin organiser le rapatriement de ces hommes qu'on avait forcés à venir en France pour les besoins de la guerre. Bon, maintenant, tout était fini. Il s'agissait de les renvoyer enfin chez eux, dans leur famille. Or, il s'est passé un truc qui n'était pas prévu, c'est que les Vietnamiens, menés par leur leader Ho Chi Minh, ont réclamé l'indépendance du Vietnam. Je rappelle à nos auditeurs le fameux discours de Ho Chi Minh du 2 septembre 1945 à Hanoï, qui déclare l'indépendance de son pays. Quelle est la réaction du général de Gaulle et de ses ministres ? Tous issus de la résistance, tous ces hommes qui s'étaient battus pendant 5 ans pour libérer leur pays de l'occupation allemande, lorsque c'est les Vietnamiens qui finalement demandent la même chose, ils demandent la libération de leur pays de l'occupation française. Là, pour de Gaulle et ses ministres, c'est pas la même chose, il n'en est pas question, les Vietnamiens, c'est pas comme les Français. Et donc là, de Gaulle refuse l'indépendance du Vietnam, et il va même plus loin, il envoie la troupe, il envoie la troupe mater les désirs d'indépendance de Ho Chi Minh et du peuple vietnamien. Et donc là, de Gaulle va réquisitionner tous les bateaux en partance pour l'Extrême-Orient pour envoyer la troupe. D'accord. Et nos pauvres 15 000 travailleurs indochinois qui étaient bloqués en France déjà depuis 5 ou 6 ans, ils vont se retrouver bloqués pour encore 3 nouvelles années. Alors, ils ne sont plus... ils quittent les villages, les petits villages comme ça. Ils sont rassemblés à nouveau dans les grands camps d'internement en attente d'un départ qui n'arrive pas, en attente d'un rapatriement qui n'arrive toujours pas. Et là, ils vont avoir un régime de semi liberté. Certains ont le droit de sortir du camp pour aller trouver du travail en tant que travailleurs libres, en quelque sorte, et donc de toucher le même salaire que les ouvriers français. Et sinon, ils vont beaucoup s'organiser, ils vont acquérir finalement une conscience politique, puisque, il faut quand même s'imaginer, eux, ça fait 6 ans qu'ils souffrent dans leur chair l'oppression coloniale. Hein. Ils sont loin de leur famille, internés dans des camps, on les fait bosser sans les payer. Bon, la colonisation, ils ont compris ce que c'était. Bon. Et là, à 8000 km, il y a leur famille, il y a leur peuple, il y a leur leader Ho Chi Minh qui se battent pour justement la libération du Vietnam. Donc, en France, ces hommes-là vont s'enflammer littéralement pour l'indépendance du Vietnam. Ils vont organiser des manifestations et d'ailleurs, il y a des photos hein, dans les médias de grandes manifestations à Marseille, à Bergerac, dans plusieurs villes comme ça, où ces Vietnamiens, sous les yeux un peu éberlués de la population française, brandissent des banderoles, vive Ho Chi Minh, vive l'indépendance du Vietnam.
Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao nguyên, Đà Lạt núi rừng thơm xuyên, thác ngàn nước bạc thiên nhiên. Chạy lòng tôi thấy, lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thu đẹp nên thơ, trên trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay, tôi lại thấy lòng lâng lâng, khi nhịp bước nhẹ đôi chân, trong rừng vắng lại bâng quâng. Bầy nai ngơ ngác, lá vàng rơi đầy miên man, trên bờ cỏ rộng thênh thang, nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù rừng trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc, mãi linh hồn tôi thu này là linh hồn tôi thu nào. Không ví vú nghe chừng lá đậm muôn phương, Đà Lạt những chiều mây vương, có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây hay là gió thoảng xa xôi, gió nào rung động tim tôi hay là dư âm cũ rồi. Trong rừng vắng lặng bâng khuâng, bầy nai ngơ ngác, lá vàng rơi đầy miên man, trên bờ cỏ rộng thênh thang, nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù rừng trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc, mãi linh hồn tôi thu này là linh hồn tôi thu nào. Vì vút nghe chừng lá đậu muôn phương, Đà Lạt những chiều mây vương, có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây
Ce n'est qu'en 48 que la France va enfin organiser les premiers bateaux pour rapatrier ses hommes.
D'accord.
Le rapatriement va prendre plusieurs années, puisque les derniers de ces hommes à retrouver leur pays, ça va être en 1952. Et donc après 11 ans, 12 ans d'exil forcé en France. Sur les 20 000 du départ, 2 à 3 000 décident de rester en France. Ils ont le droit. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont rencontré une Française et qu'ils ont fondé une famille.
D'accord.
Et c'est comme ça que des premières familles vietnamiennes, franco-vietnamiennes, font leur apparition en France.
D'accord. Alors, peut-être j'aurais juste une dernière petite question, Pierre. C'est... Tu as fait plusieurs conférences, justement, pour raconter toute cette histoire passionnante dans des villages qui ont accueilli, justement, ces travailleurs indochinois. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes qui sont ressorties, justement, d'habitants qui t'ont surpris, qui t'ont marqué particulièrement ?
Alors, oui, c'est... bon, déjà, il y a un truc qui est très marrant, c'est que... C'est une histoire donc, qui a marqué ces villages pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, entre 42 et 45, on va dire. Bon. Et en fait, il n'y a pas eu de transmission de cette mémoire. Les gens ont vite oublié, entre guillemets, et en fait, ce n'est qu'à la sortie de mon livre, en 2009, donc, il y a eu plusieurs articles de presse, il y a eu un peu de... Je suis passé à la télé, etc. Et comme ça, il y a une espèce de mémoire locale qui a ressurgi avec des grands-pères, des grands-mères qui se sont mis à raconter « Ah oui, c'est vrai, il y avait ces Chinois. » Bon. Et donc, j'ai été invité à raconter un peu toute l'histoire. Et ce qui est à chaque fois surprenant, c'est que, à l'époque, les Français, les villageois, petit un, ils se sont jamais demandé comment ça se faisait que ces mecs avaient atterri là. Et donc, quand je leur ai dit que c'était un recrutement forcé et que c'était au départ pas du tout pour aller faire du charbon dans les villages ou du ramassage du genêt, mais c'était pour les usines d'armement, eh ben, les types ouvraient des grands yeux. « Ah bon, je ne savais pas, etc. » Bon. La deuxième chose qui me surprend toujours, c'est que quand j'explique que ces types n'étaient pas payés, ces types que les vieux monsieur ou les vieilles dames lors de mes conférences, là, aujourd'hui, ils se souviennent très bien que ils bossaient très dur, qu'ils se levaient à 5 heures du matin, qu'ils étaient mal habillés, ils avaient froid et tout. Mais c'est comme s'ils s'étaient jamais posé la question à l'époque, au moins, est-ce que ces types sont payés correctement ? Non. Voilà, les villageois des Garrigues voyaient ces gens travailler dur, etc. Et ils se sont... jamais posé la question s'ils étaient payés ou non. Donc ça, c'est toujours un peu surprenant. Bon, la troisième chose qui est... Alors là, pour le coup, c'est pour finir sur une note un peu sympathique, c'est que finalement, il y a eu des relations avec les villageois. Alors, au départ, c'était pas facile parce que, je vous ai dit, les Vietnamiens ne parlaient pas français. En vérité, 95% d'entre eux ne parlaient pas français, mais il y avait toujours un ou deux traducteurs, des Vietnamiens, qui avait fait un peu de quelques années à l'école française au Vietnam et qui parlait un peu français et qui servait de traducteur. Et donc, cela avait spontanément plus de rapport avec la population française. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé dans certains villages de l'Hérault, comme ça, des vieux monsieur qui me disent « Ah oui, moi j'avais 10 ans, j'étais très copain avec Tan, ou avec To, ou avec Lin, ou bon. » Ils se souviennent du prénom de ce type qui avait 10 ans de plus qu'eux, le Vietnamien, mais qui avait l'air super jeune, parce que les Vietnamiens ont toujours l'air beaucoup plus jeunes que ce qu'ils ont en réalité. Et voilà, qu'il y avait une vraie amitié qui avait pu se nouer entre un jeune hérolté de 10 ans et un Vietnamien de 20 ans. Et ça n'a pas été qu'avec des jeunes garçons, puisque un des trucs assez sympas, assez presque incroyable, mais c'est que donc, le dimanche, les Vietnamiens n'avaient pas l'obligation de travailler. Hein. Ils travaillaient 6 jours par semaine. Et le dimanche, ils se promenaient un peu dans le village, etc. Et avec les jeunes femmes du village, et ça fait toujours rire les gens dans mes conférences, avec les jeunes femmes du village, il y a des relations qui se sont nouées, et même des relations très tendres. Vraiment, c'est un truc très sympa. Faut vraiment se remettre à l'époque. Je vous ai dit, ces villageois n'avaient jamais vu un Asiatique de leur vie. Et d'un côté, il y a eu des réactions de racisme, de mépris vraiment racialiste, enfin, au sens où ces Chinois, c'est des indigènes, c'est des sous-hommes, etc. Mais de la part de certaines jeunes femmes, il y a eu une vraie attirance physique. Et d'ailleurs, je vous parlais de ces couples-là qui se sont formés. La plupart des enfants, les premiers enfants, sont nés hors mariage. Voilà, donc c'était des relations amoureuses campagnardes.
Ben, merci beaucoup Pierre, en tout cas pour cet éclairage sur un pan de l'histoire de nos villages de garrigues très vraiment méconnu. Alors pour en savoir plus, je vous invite à lire ton livre, donc « Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France, 1939-1952 », aux éditions Actes Sud. Donc merci Pierre Dom pour cette interview.
Eh bien, merci à toi et merci aux auditeurs.
Puncia la rosa quelle che l'amore muncio duele. Tu non nascites para mi, presto alleggia te de mi. Presto alleggiate de mi, accodrate da aquella ora che io te vedo.